Des poches sous les yeux, la chronique littéraire d'un livre de poche sur Radio Béton.
C'est fini le vin naturel, les intellos sont dans la place. C'est des poches sous les yeux, spécial au quart de tour, comme tous les ans en fait. Hein. Ça devient une tradition, Odile, des poches sous les yeux au quart de tour.
Mais j'ai l'impression, oui, ça fait déjà 3 ans. Et puis il y a une nouveauté cette année, puisque nous remettons le prix...
Rockatitude.
Rockatitude.
Qui lui était beaucoup plus vieux.
Ah oui, beaucoup plus vieux.
Ça et qui donne lieu, et qui donne lieu à des batailles internes d'abord.
Bah oui,
à
parce
béton.
Qu'il faut choisir la nouvelle que nous allons promouvoir. Et puis cette année, c'était un bon cru. Il y avait beaucoup, beaucoup de nouvelles. Alors peut-être que c'était dû au nouveau mode de fonctionnement.
Tu veux dire, il y avait de l'argent à la clé.
Voilà, cette année.
Bravo.
Il y avait 300 € à gagner. Plus, comme chaque année, l'enregistrement de la nouvelle, ainsi que la publication dans le tiré à part. Donc, chaque festivalier a l'occasion de lire cette nouvelle.
Alors, on a la gagnante de cette année en direct dans des poches sous les yeux, sur béton. Et tu vas l'interviewer, c'est ton job.
Non, d'abord, je vais lui remettre solennellement...
Ah, c'est l'argent là qu'il y a là. Ah, il y a l'argent dans
une
l'enveloppe.
Une enveloppe avec l'argent.
J'aurais su.
300 euros de bons d'achat à la boîte à livres. Alors
merci.
Avec ça, ça va être super. Donc, on n'a pas présenté la gagnante.
Encore.
Il s'agit de Anne Denost.
Bonjour.
Bonjour.
Et donc, voici sur une clé USB l'enregistrement de la nouvelle. Et comme la nouvelle est une nouvelle d'anticipation, il y a des anciens qui parlent. Attention, on a l'impression d'entendre le père Fouras qui parle dans la chronique. La nouvelle, il faut que je me fasse à ce mot-là. Et donc c'est très impressionnant, j'espère que ça te plaira.
Merci beaucoup.
Voilà.
Alors, pourquoi as-tu concouru ? D'abord, est-ce que c'est la première fois que tu concours pour le Rock Attitude ?
Eh bien, en fait, j'avais déjà écrit pour Rock Attitude en 2008. À l'époque, la 6e édition, le thème, c'était Vision d'avenir et le thème m'avait bien interpellée. C'était la première fois que je répondais à un concours de nouvelles, d'ailleurs. Et celui-ci, qui est sur le passé, enfin, vision d'avenir et est-ce que c'était mieux,
avant,
ça faisait comme une boucle. Enfin,
comme un écho, oui.
Voilà. Et donc c'est ce qui m'a donné envie de répondre à ce concours-là également.
Et tu écris régulièrement ?
Oui, j'écris régulièrement. Et ben, en fait, depuis 2008, puisque quand j'avais fait ce concours de nouvelles, j'avais pas gagné, mais j'avais quand même pas envie que la nouvelle dorme dans des tiroirs. Donc, j'avais découvert que sur Internet, il était possible de déposer ces nouvelles et de les laisser à la lecture d'autres lecteurs, notamment sur un site qui s'appelle Atramenta. Et donc là, j'ai posé ma nouvelle, j'ai découvert une communauté d'auteurs, une communauté de lecteurs, ce qui m'a donné l'élan pour continuer d'écrire jusqu'à maintenant. Voilà.
Alors dans l'heure de choisir, qui est donc une nouvelle d'anticipation, où finalement on retrouve une petite communauté d'hommes dans un environnement complètement dévasté, les hommes ont épuisé les ressources de la planète... je ne sais plus ce que je veux dire.
Bien, donc il vaudrait mieux que tu racontes toi-même ta nouvelle, parce que visiblement je me demande si elle l'a lu. Pourtant elle l'a défendu
bec
et ongle, cette nouvelle.
Oui, parce que moi j'ai vu des inspirations. Alors quelles sont tes inspirations, et puis on va voir si c'est les mêmes que celles auxquelles je pense.
Alors, en fait, plutôt que de regarder, vu le thème qui était le passé, est-ce que c'était mieux avant, plutôt que de partir d'aujourd'hui et de regarder vers le passé, j'ai préféré me glisser dans l'avenir et regarder notre monde d'aujourd'hui, quelle image on en aurait dans 20 ans, 50 ans, 100 ans, enfin, ça importe peu. Mais en tout cas, après l'apocalypse, après avoir été dans le mur, peut-être un peu de Barjavel dans l'inspiration derrière, peut-être un peu aussi Bradbury, qui ont été des auteurs
D'accord.
que j'ai beaucoup aimés auparavant. Et puis, bah, je dois avouer que quand on écrit, on ne pense pas forcément à tous les auteurs qui nous ont inspirés. La plume part et puis c'est après, on se dit « Ah tiens, ça fait écho avec tel ou tel texte
». Mais comme on retrouve justement ces hommes qui essaient de retrouver les connaissances du passé, de réorganiser le monde du travail, hein. Il y en a qui s'occupent du poulailler, de l'agriculture, etc. Moi, ça m'avait fait penser à l'organisation des guildes et puis qu'on trouvait dans Ken Follett, par exemple, sur ses livres du Moyen-Âge, non ? T'avais lu ça ?
J'ai pas lu celui-ci, mais je suis aussi inspirée par ce type de lecture également, oui.
Et alors c'est compliqué d'écrire une nouvelle pour les gens qui nous écoutent, là, qui pensent que je me mets à une nouvelle et puis je la finis dans une demi-heure. Là, tu l'as travaillé beaucoup, ça, là ?
Alors, le premier jet, souvent, c'est assez rapide. On part sur une idée et puis ça va assez vite. Mais par contre, il y a un gros, gros travail à faire derrière qui prend beaucoup de temps, correction des fautes. On se relit une semaine plus tard, on voit des répétitions partout. On se dit, mais c'est pas possible, j'ai pas pu écrire ça. Des phrases alambiquées sans point, on se demande quand elles s'arrêtent. Enfin voilà, donc il y a le premier jet, puis après il y a un vrai travail pour ajuster, affiner, polir le texte et lui donner forme en fait, vraiment.
Et donc tu as continué à écrire après cette nouvelle ou...
Bah, en fait j'écris tout le temps un petit peu, mais plutôt par rapport au site dont je parlais tout à l'heure, Atramenta, ou soit sur l'émulation d'autres auteurs qui lancent un défi auquel ceux qui le souhaitent décident de répondre, soit par rapport à des thèmes d'actualité. Là en ce moment j'écrivais des chroniques hebdomadaires, un petit peu ressenti personnel de l'actualité, sous forme de lettres à un ami... perdu je ne sais où en tout cas, voilà, mais c'est selon l'inspiration, selon les gens qu'on rencontre, selon les événements qu'on vit. Il ne s'agit pas de faire des choses autobiographiques, mais de s'inspirer de la vie autour de nous, quoi.
Alors Odile, on peut peut-être donner des nouvelles d'anciens gagnants de Rockatitude.
Oui, c'est une très bonne nouvelle, ouais. Puisque le gagnant de l'année dernière, Michel Douard, vient de publier son premier roman aux éditions de la Manufacture des Livres. Ça s'appelle Chinese Strike, et c'est quand même formidable un an après avoir reçu le prix de publier un roman. Donc on souhaite à Anne exactement le même parcours. Enfin.
Merci d'être venu. Bon choix à la boîte à livres avec ces 300 € de bons cadeaux. Ça sera la même chose l'année prochaine, Adil ou...
C'est pas encore décidé, mais sûrement.
Ça discute, ça négocie.
Oui, bien sûr.
Merci. On va enchaîner ou on va faire ta première pause musicale. Allez, tiens, c'est quoi?
Alors, comme le thème du festival, c'était mieux avant. Comme le thème de cette nouvelle, il s'agit d'une chanson de Clarica qui s'intitule C'était mieux avant.
Non.
Si.
Pas trop fort.
Le ciel était bleu curaçao, des anges tombaient des nues, les gens étaient gentils et beaux, le jasmin embaumait les rues, comme il y avait pas la télé, on pouvait se faire la gueule à table, on mangeait des potages mixés, pas du soja vert.
Des poches sous les yeux, la chronique littéraire d'un livre de poche.
C'était vraiment mieux avant, je sais pas où tu as cherché cette chanson, mais.
C'est très très bien, Clarica, je comprends pas ce que
c'est
tu
vrai,
dis.
Bon,
mais oui,
bien.
C'est formidable.
Donc nous sommes en direct de Des poches sous les yeux, en direct deux quarts de tour sur la Gloriette. Et le principe de Des poches sous les yeux, c'est de parler de livres qui ont un rapport avec le thème de quart de tour cette année, donc c'était avant.
Et là, c'était vraiment très très large. Hein. D'ailleurs, vous allez voir,
oui, c'est très
éclectique.
Donc autour de la table, Odile, qu'on entend beaucoup depuis le début de l'émission, elle va se taire, tu vas voir. Mélanie, Vincent et Jimmy. On va commencer par Jimmy, on va parler d'Indiens. Et là c'est, on est en plein dans le thème. Donc Edward Sheriff Curtis, Les Indiens d'Amérique du Nord.
Bah oui, parce qu'en fait, moi j'ai pas lu Proust. Alors... dans le thème c'était mieux avant, bon j'ai pris Curtis. Curtis, il est surtout connu pour les photos qu'il a fait. Il a fait tout un répertoire, tout un inventaire des tribus d'Amérique du Nord en photo, et ça lui a pris un certain temps. En fait, il a fini en 1930, il a commencé en 1907, donc ça fait un petit peu de une durée certain.
Il y a passé sa vie.
Voilà, il y a passé sa vie. Il a fait environ 40 000 clichés, ce qui est énorme. Et donc ces images sont, il a des très très belles images. Il a surtout constitué un inventaire donc de toutes ces tribus qui étaient acculturées et mis au relais, enfin reléguées dans les réserves.
Voilà. Ça lui a pris comment de faire ça?
Bah, en fait, il s'est intéressé très tôt à la photographie. Il a même construit son premier appareil photo comme ça au départ. Je pense qu'il a dû se faire un petit sténopé. Et puis, il se promenait pas mal avec son père qui était prédicateur. Donc, je pense qu'il était en contact assez rapidement avec les autochtones, les locaux. Et voilà, donc c'est un truc qui l'a toujours intéressé. Comme il se promenait pas mal avec son père pour prédiquer, pour prêcher à droite à gauche. Il connaissait bien les différentes régions dans lesquelles il se promenait, et il a servi de guide pour différentes expéditions, entre autres ethnologiques, etc. Et entre autres, une expédition dans laquelle il a participé en tant que guide, il a rencontré des gens qui, ethnographes, etc., qui l'ont branché sur une expédition en cours en Alaska, me semble-t-il, enfin des Inuits, enfin les parties nord, quoi.
Mmh. L'expédition.
Voilà, froid, ouais. Froid et des kayaks, des peaux de phoque. Et donc c'est l'expédition Harriman sur laquelle il a fait ses premiers travaux photographiques, parce qu'il était embauché pour ça, et ethnologiques.
Et après il a continué.
Et du coup il s'est dit faut continuer, quoi. Et donc il a continué sur toutes les tribus d'Amérique du Nord. Il a traversé environ plus d'une centaine de fois les États-Unis pour constituer tout son matériau photographique. Il a eu des gros problèmes de financement parce que forcément c'est une tâche énorme, quoi. Et les gens qui avaient de l'argent à l'époque, bah, c'était les gens des chemins de fer. Hein. Donc il y a un financier qui s'appelait Jean Pierpont Morgan, j'ai pas l'accent, mais voilà, qui a financé en grande partie ses travaux. Et un travail qui devait durer 5 ans au départ, qui en a duré 25. Et le projet initial, c'était une édition de luxe avec des belles images, etc. Voilà.
Mais alors, il y a eu plein de controverses après qu'il ait fait ses photos, parce qu'on dit qu'il ait retravaillé beaucoup ses photos, parce qu'elles sont, quand on les voit là, elles sont magnifiques. Hein,
mais, oui.
Donc il retravaillait à max la façon dont il mettait en scène ses photos.
Ça, je peux pas dire. Alors oui, il mettait un petit peu en scène, parce qu'en fait, plus ça allait dans le temps, dans sa bibliothèque d'images, plus il y avait des gens qui venaient voir les Indiens en tant que touristes, quoi. Donc des fois, il y avait des trucs qui n'était pas forcément raccord avec...
C'était pas forcément l'original. Quoi.
Voilà, donc oui. Bah, il mettait un petit peu en scène, il essayait de le faire le moins possible. Au départ de son travail, il s'intéressait uniquement aux tribus indiennes qui étaient les plus dans leur tradition, dans leur culture, etc. Les tribus qui étaient déjà acculturées, il les mettait plus de côté. Et voilà...
Et alors, c'est publié dans une collection, la Taschen, qui publie que des beaux livres.
Oui, alors oui, parce
pas que des livres, Vincent,
mais,
ouais.
Surtout
aussi,
c'est des,
c'est toujours très belle chez Tachenne.
Ouais, et puis surtout c'est des publications qui sont abordables, quoi, parce que forcément voilà, les éditions originales, je t'en parle même pas.
Donc c'est des livres d'art à portée de tous.
Voilà.
Moi, je suis pour.
C'est du low cost, c'est du low cost.
Parce que voilà, là c'est un gros pavé de 800 pages quasiment.
Oui. Oui, oui, 800 pages, donc c'est découpé par tribu, par région, etc. Et il y a des images fabuleuses, quoi. C'est, bon, il y a plein d'images qu'on connaît déjà, parce qu'il y a plein de trucs qui ont été édités en poster, etc., qui servent à droite, à gauche, mais c'est très, très beau, ouais.
Et puis, il y a une très, très belle couleur sépia aussi, hein. C'est pas la photo noir et blanc.
C'est l'époque, hein.
Oui,
c'est l'époque, hein. À l'époque, pour avoir des belles images bien fixées, il fallait virer ses photos. Donc, virage sépia, voilà, ça permettait de perdurer la qualité, tenue de l'image. Voilà,
photo. Ouais.
Merci Jimmy. Donc c'est, on redit, Edward Sheriff Curtis, Les Indiens d'Amérique du Nord aux éditions Tachenne.
Un voyage dans le temps et.
Ouais, ouais non, c'est super beau. Faut vraiment feuilleter ça, quoi. C'est fabuleux, ouais.
Merci, on passe à un livre sur la préhistoire.
Tout à fait, oui, ça fait rire hein, comme ça d'emblée.
Pourquoi hein, j'ai mangé mon père de Roy Lewis.
Voilà, Mélanie. Alors justement la préhistoire, tu fais bien de le dire, parce que justement ça relève du miracle hein, que j'aime ce livre, parce que moi la préhistoire, personnellement, ça m'a toujours un peu gonflé.
Pourtant, tu es au bar Cro-Magnon.
Oui, mais c'est pour ça que je lutte là en ce moment. Je fais un retour.
Oui, parce que chaque bar est en rapport avec le thème du festival. Donc,
voilà.
Il y a le bar Cro-Magnon.
Et là, je suis déguisée comme si je sortais effectivement de ce livre, qui est donc un livre de Roy Lewis qui a été écrit en 1960. Et alors, effectivement, quand on dit voilà, un livre sur la préhistoire, on se dit que ça va pas forcément être emballant, et en fait c'est un petit bijou d'humour. Alors c'est très très drôle en fait. J'ai rarement ri autant en lisant un livre. Oui, je ne regarde pas comme ça.
Il y a besoin de chroniques aussi.
Ah pardon. Non, excuse-moi.
T'as pas fait des chroniques. Elles sont pas souvent rigolotes. Hein.
Oui, je sais. J'ai une réputation d'être sinistre, mais je rigole quelquefois. Ça m'arrive quand même, et notamment en lisant ce livre qui se passe donc alors à l'époque du Pléistocène, donc j'ignorais ce mot avant de lire le livre.
Oui, Pléistocène, oui.
Qui est le moment charnière en fait entre le moment où l'homme est vraiment à l'état animal et celui où il va commencer à découvrir la technique et surtout voilà apprendre à maîtriser le feu. Ce qui va quand même changer la vie voilà, au niveau des armes, de la nourriture, de la défense contre les animaux sauvages, qui à l'époque, voilà, c'était des ours, donc c'était pas forcément très drôle et on vivait pas vieux.
Et là, comme toujours, il y en a qui sont pas contents qu'on ait inventé le feu.
Alors, en fait,
c'est un
voilà,
peu comme l'énergie nucléaire, comme tous ces trucs-là, il y a toujours des gens qui
alors,
sont pas contents.
Alors justement, on verra après qu'il y a des parallèles avec finalement l'époque moderne. Et en fait, ce qui est très très drôle, c'est que ce livre repose sur des anachronismes. Donc effectivement, c'est à travers l'histoire d'une famille. Et qu'on retrouve à la limite les banquets de Noël où vous avez l'oncle qui s'engueule avec le petit-fils sur des questions politiques. Et ici, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les personnages s'expriment avec des termes modernes, que ce soit des termes philosophiques, des termes politiques, et qui vont avoir des discussions très poussées sur justement est-ce que le feu c'est vraiment bien. Donc il y a l'oncle, le vieil oncle réactionnaire qui s'appelle l'oncle Vania, donc un clin d'œil à Tchekhov au passage, qui est lui. Voilà, arqué sur ses positions et qui pense qu'aller contre la nature, ça va apporter des catastrophes terribles. Donc lui, son cri de ralliement, c'est back to the trees. Parce que, excuse-moi pour l'accent, Odile, je fais ce que je peux. Et du coup, voilà, qui continue à rester, à vivre dans les arbres.
Retour dans les arbres, oui, j'allais traduire parce que.
Oui, effectivement. Mais qui ne refuse pas quand même de venir manger un petit barbecue d'antilope quand il peut, parce que finalement c'est pas si mal que ça, mais en râlant, parce que quand même le progrès c'est pas bien. Et il y a le père qui est un peu la figure centrale, qui lui est justement un progressiste, qui passe sa vie à vouloir améliorer les choses, donc un peu un savant fou en fait, qui va toujours vouloir faire des... Pardon ?
Le thermostat ?
Oui, c'est ça.
Il faut parler dans le micro, jeunes gens.
Le thermostat, disais-je.
Voilà. Et qui, au fur et à mesure, va faire découvrir et va aussi sauver sa famille, finalement, parce qu'il va lutter pour justement trouver de nouvelles découvertes. Donc, il va dompter le feu, qui va être sur un volcan, et puis qui va se rendre compte que c'est bien d'aller le chercher, mais qu'il faut aussi le maintenir. Donc, il va essayer de voir comment on fait. Et puis aussi qui va faire découvrir donc des éléments de la vie humaine, à savoir donc l'art. Donc vous avez un des fils qui par hasard découvre que bah voilà, si on écrit sur une paroi, ça fait un dessin. Et puis aussi l'amour. Alors il y a des choses très très drôles, parce qu'évidemment à l'époque on se reproduisait entre ce qu'on pouvait, quoi, frères et sœurs, père et enfants, etc.
Ça, c'était au Plastocène, maintenant c'est fini.
Et voilà,
ça.
Grâce
maintenant, on fait
au
ça
père,
entre cousins. Moi,
voilà, on ne citera personne. Mais du coup, lui va un jour se dire non, il faut qu'on mêle les tribus, donc il va emmener ses fils dans une autre tribu, alors ordonnant de prendre des femmes dans cette tribu. Alors il y a des scènes très très drôles de où on découvre ce que c'est que la séduction amoureuse, mais façon Plastocène, donc mais aussi façon Tex Avery un peu, parce qu'ils se courent après, ils savent pas trop comment on fait. Enfin, donc c'est vraiment très très drôle.
Mais ce que tu me racontes, ça me fait vraiment penser énormément à la BD de Jules,
oui,
Silex and the City.
C'est un peu le même le décalage. Comme
tu crois
ça,
qu'il a, il aurait pompé?
Écoute,
lequel a pompé
ça,
sur qui
il aurait... Ah ben Jules, enfin non, après attends, on va être accusé de diffamation, taisons-nous. Mais du coup voilà, et effectivement il y a aussi toute une réflexion politique actuelle, parce que par exemple la découverte du feu, alors il y a le père qui est progressiste, alors c'est, il fait partie du front évolutionnaire, et lui il dit voilà, on a découvert ça, il faut faire partager cette découverte, et ses fils qui disent mais non, tu as découvert ça, faut le faire payer, enfin je veux dire, tu vas vendre ta découverte aux autres tribus. Donc il y a des grandes querelles politiques, et aussi l'idée de quand on découvre quelque chose, qu'est-ce qu'on en fait et les risques que ça peut poser. Et là il y a un parallèle notamment avec la bombe atomique en fait, où bon, qui est sous-entendu tout au long du livre. Bon, voilà.
Mais est-ce qui rejoint aussi la nouvelle d'Anne de Nost, où en fait on voit que la petite communauté a peur des nouveautés et préfère rester sur ses acquis.
Habile Odile.
Bravo. Donc voilà, donc du coup ça fait un peu penser, on a l'impression d'être dans Buster Keaton, Charlie Chaplin, il y a une scène où ils apprennent à tailler le silex, où on a l'impression voilà, que c'est les temps modernes, une espèce de taylorisme du silex. Donc vraiment voilà, c'est très très bien.
Donc un livre à lire, j'ai vu qu'il était traduit par Vercors, c'est le Vercors qu'on connaît.
Non, j'ai cherché, mais non, ce n'est pas lui. Non. Bon. Et alors Théodore Monod, c'était un de ses livres préférés, parce que c'est à la fois... On apprend plein de choses, mais c'est pas simplement didactique. Il y a vraiment un côté ludique et voilà, je vous conseille chaudement.
Donc Roy Lewis, Pourquoi j'ai mangé mon père, c'est paru chez Actes Sud, mais ça vient de sortir en poche. Je
oh non,
crois.
Il y a très longtemps.
Je l'ai vu en poche.
Ouais. Il est en franc le prix encore.
Ah ouais, d'accord.
Donc non, il est en poche.
Il est en poche un peu partout. Chez Babel.
Babel, oui.
Très bien. Merci Mélanie. On passe à. On va parler de choses sérieuses, Vincent. On va parler foot. Donc, forcément,
oui, enfin.
On va
oui.
enfin parler foot. Oui. Donc, on parle d'un bouquin qui s'appelle Raclée de verre.
Oui.
De
osons en fait un pont entre le thème de l'année dernière, vive le sport, et le thème de cette année, c'était mieux avant.
Encore plus habile.
Il est trop fort, ce Vincent.
Talent.
Osons, et nous osons, et avec ce petit livre, hein, ça fait 80 pages, de Caryl Ferret. Alors, Caryl Ferret, on aime beaucoup sur béton. Hein, plusieurs de ses romans ont été l'objet de chroniques. Vraiment poignante parce que voilà, il fait des livres qui sont bien chargés, qui sont bien noirs, bien glauques.
Et très documentés,
hein, qui se passent en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, et je ne sais où ailleurs. Mais voilà, Caryl Ferret ne fait pas que du noir à 100%. Il fait aussi des livres pour la jeunesse. Et donc, avec Raclée de verre, je me disais, tiens, il s'est permis une petite plaisanterie, une petite excursion en terre sportive. Non, pas du tout. Je pense que c'est un gars qui aime bien la diversité. Et donc, Raclée de verre, c'est l'histoire d'un vieux gars qui s'appelle Michel, qui habite à Saint-Étienne et qui ne vit que pour le football. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop de quoi il vit, on ne sait pas comment il gagne sa vie, et on comprend vite qu'en fait, il gagne sa vie en trucidant des gens et en leur piquant leurs économies. Donc, il les chope au passage dans les rues. Et en fait, c'est
un marché.
C'est une façon aussi d'évacuer un peu l'adrénaline qui coule dans ses veines les jours de match, car Michel habite Saint-Étienne. Bon, il est interdit de stade sans doute pour des fêtes voilà qui n'osent même pas nous qui sont même pas racontées dans le bouquin, mais sans doute un peu violent, et donc cette adrénaline lui coule dans les veines et il finit par tuer quelqu'un. Et bon, après il écoute le match à la radio et ça va mieux. Alors ce livre, c'était mieux avant, parce qu'effectivement, bon, là, il Zlatane plein de victimes, là, dans la rue, mais.
Zlatane n'existait pas.
Voilà. On retrouve quand même la mythologie stéphanoise de 76, hein, et de la finale à Glasgow contre Munich, les poteaux carrés, les frères Révelli, son chien, d'ailleurs, Michel, s'appelle Jean Vion. Donc, c'est vraiment pour tous ceux qui ont les poils quand on regarde la Coupe du Monde de 78 ou ça.
Qui ont les poils tout court, parce que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal sur ce livre, quand même. Je ne comprends comprenais absolument rien, je connaissais pas les noms.
C'est
un livre de mec, quoi.
C'est un livre, non, c'est de la poésie.
Regardez,
je vais rigoler par Violette.
Écoute, Triantaphilos, Saramania,
c'est un livre de fou, de fouteux.
Tout ça, ce sont des noms, mais c'est une puissance d'évocation.
Ou pas.
Mais c'est fait partie de notre culture. C'était mieux avant. Il y avait moins de millions, mais il y avait plus de champions.
Et t'as d'autres noms de footballeurs de Saint-Etienne à citer, là?
Ah bah, la génération suivante, bien sûr, qui est arrivée à Saint-Etienne, les Platini et les Johnny Rep, bien sûr. Mais bon, là, ça commençait à déjà se dénaturer. Le pognon avait imbibé le football. Alors, juste pour revenir sur le Caril Ferret, petit livre bien agréable et bien rigolo. C'est vrai, comme dit Odile, pour les footeux. Quand même un peu de littérature, parce que plus il tue des gens, plus il perd des sens. Il perd la vue, il perd l'odorat, il perd le toucher.
Fait.
Et donc, il devient quelque chose d'autre qu'un être humain. Et donc, il y a une petite dimension kafkaïenne dans l'évolution.
N'ayons pas peur des mots, mais kafkaïen,
mais allons-y, dans l'évolution de ce personnage qui disparaît. Qui disparaît de lui-même, puisqu'il n'arrive plus à se voir, à se sentir, à se toucher. Donc, Caril Ferrer, à clé de verre chez Pocket.
Et donc, c'est chez Pocket, et au départ, c'est dans une collection que Jean-Bernard Pouy, qu'on connaît bien aussi sur Béton, avait créé.
Oui, c'est un exercice de style. Donc, il avait convié des écrivains à produire des romans noirs, dont le titre devait être un hommage à une grande série. Donc là, c'est censé se rappeler un bouquin d'Achille Hamet qui s'appelle La Clé de Verre, mais bon, voilà. Merci Internet.
Très bien. Et donc on va écouter Mickey 3D, Johnny Depp.
Ah, oui. Johnny Rep, pas Depp.
Johnny Rep. Écoutez la fin, c'est magnifique. Hein.
Merci de le faire remarquer, Mélanie.
Ce soir, c'est le tout premier match de la saison. Et Johnny Rep a les cheveux blonds. 45 000 personnes se tassent dans le chaudron. Et Johnny Rep enlève son pantalon. Un ange qui passe dans les vestiaires. Johnny Rep enfile son maillot vert. Ce soir, la lune escorte les champions. Et Johnny Rep affûte ses crampons. Ce soir, la foule n'en peut plus de chanter. Et Johnny Rep évite les croche-pieds. Ce soir, c'est sûr, on va voir trembler les filets. Et Johnny Rep n'en peut plus de dribbler. Ce soir, on joue à la maison. Et Johnny Rep demande le ballon. Ce soir, la pluie trempe les blousons. Mais Johnny Rep a marqué ses bons.
Saint-Etienne qui mène déjà 2-0, deux buts de Johnny Rep. Johnny Rep réussit d'ailleurs l'un des premiers doublés. Johnny Rep qui récupère le ballon en position d'arrière droit. Un Johnny Rep extrêmement défensif. Il laisse le ballon en retrait à Christian Lopez. Christian Lopez qui remet en retrait Jean Castaneda. Castaneda qui relance immédiatement pour Gérard Janvion. Janvion qui change complètement de côté, qui donne à Gérard Parizon. Gérard Parizon à destination de Jacques Santini. Santini à Michel Platini. Michel Platini en profondeur pour Johnny Rep. Johnny Rep seul devant le gardien au point de pénalty. Et Johnny Rep qui marque le troisième but de l'équipe de Saint-Etienne. Il reste 8 minutes à jouer. L'équipe de Saint-Etienne est évidemment qualifiée pour le prochain tour de la Coupe de l'UEFA. Des Stéphanois qui mènent 3-0. 3 buts de Johnny Rep.
Ah, c'était bon, Vincent, c'était bon, ce Johnny Depp, ce moment de foot.
Johnny Depp encore?
J'ai dit Johnny Depp
mais,
encore?
Mais oui, c'est une obsession.
Je pense qu'à lui.
Je vais voir Vanessa Paradis apparaître.
Ah oui, c'est ça. C'est peut-être, c'est peut-être ça en fait.
Bah, oui, moi je préfère les bimbos.
Alors, ouais, parlons de bimbo, mais enfin, maintenant Vanessa Paradis, c'est pas vraiment une bimbo, mais Jen Mansfield, j'arrive pas à le dire non plus. Jen Mansfield. 67, c'est ça?
1967.
C'est quoi ce bouquin, Jen Mansfield, 1967?
Alors, c'est un livre de Simon Liberati. Il a reçu le prix Femina en 2011 pour ce livre.
Est-ce bien sérieux?
Oui, oui, oui. C'est assez hypnotisant parce que le...
Elle était assez hypnotisante en même temps. Hein.
Ah bah oui, c'est parce que donc, pour ceux qui ne connaissent pas Jen Mansfield, c'est une blonde... plantureuse qui
a une
très grosse poitrine. Et si je vous dis 167, c'est quoi d'après vous?
176.
Du combien de parties de la poitrine?
Ce n'est pas son tour de poitrine, okay. c'est son QI. Elle avait un QI hors du commun.
Elle parlait 4 langues ou 5 langues, je ne sais plus.
Elle est exceptionnelle, cette femme. Et donc, le livre commence par, je ne sais pas ce qu'ils disent derrière. Le livre commence en fait par une description sur 40 ou 50 pages, une description presque clinique d'un accident. On ne sait pas de qui est impliqué dans cet accident. Et donc, pendant 40 pages, on a la description d'une voiture, une Buick, qui est complètement encastrée, broyée dans un semi-remorque sur une route de Louisiane dans les années 50. Et petit à petit, on apprend qu'il s'agit de Jen Mansfield. Et à partir de ce moment-là, Simon Liberati va nous décrire la vie de cette femme. Donc, qui était connue pour être nymphomane, très, très sexe, très jolie. Or là, il commence finalement par le dernier coït, c'est-à-dire les chairs broyées de la Buick avec cette femme. Ça dépasse de partout, il y a des morceaux. Et sa mort est très, très connue parce qu'elle a été décapitée. Donc, c'était, étant donné que c'était une icône de ces années-là, ce fut un événement très marquant. Puis la scène est décrite avec, donc c'est très très long, je vous l'ai dit, et visuellement, on voit tout à fait ce qui se passe. Tout est bleu, la Buick est bleue, il y a l'ambulance avec le gyrophare qui laisse traîner une lumière bleue sur la scène. Et puis de temps en temps, on voit du blond. Et qu'est-ce que c'est que ce blond? Ce sont les morceaux de sa perruque, de ses postiches, parce que, comme toute bonne pin-up qui se respecte, elle se teignait les cheveux.
Elle n'était pas blonde.
Elle n'était absolument pas blonde, et en plus, donc, elle est devenue chauve. Donc, elle est morte pas très vieille, hein, 34 ans. Ouais. Mais elle était chauve, elle était connue pour ses énormes perruques qui l'ont fait passer à la fin de sa vie pour presque une travestie. Hein. C'était une freak, un monstre avant l'heure, et elle faisait donc des shows. Elle avait commencé... Alors pourquoi est-ce que je voulais parler de ce livre? Parce que c'était mieux avant. Pourquoi est-ce que c'était mieux avant?
Parce qu'il n'y a plus de bimbos aujourd'hui.
Alors les bimbos d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est Nabila. Hein,
ouais.
Vous connaissez,
allô,
quoi, elle a réussi à déposer ça. Donc, Nabila, c'est quoi? C'est une nana qui vient de la télé-réalité, qui veut passer à la postérité avec cette phrase.
Bon, faire de l'argent, surtout.
Et faire de l'argent. Je sais pas si un jour elle deviendra vraiment une star.
Elle fera de l'argent, par contre.
On n'a pas son QI, elle.
Non. On a vu juste son QI. Mais bon. Donc, Jen Mansfield, elle a commencé par être une star. C'était vraiment la star des années 50. C'était l'adversaire de, si on peut dire, de Marilyn Monroe. Simplement, elle n'a pas fait les rencontres que Marilyn Monroe a faites.
Elle a eu la classe de mourir à temps.
Elle a eu la classe de mourir à temps, mais non, parce que malheureusement pour elle, la déchéance est arrivée de son vivant bien avant, étant donné que pour... pouvoir survivre, étant donné qu'on lui proposait que des rôles d'hommes blancs et qu'elle en avait marre, et puis qu'elle avait une vie qui l'avait un peu épuisée. Elle a eu 5 enfants, donc elle était plus au top physiquement, donc plus tellement demandée par les producteurs. En plus, dans les années 50, c'est aussi l'émergence de la nouvelle vague, donc les blondes à forte poitrine, on n'en voulait plus trop. Mais comme elle avait un QI hyper
élevé,
elle en a profité pour créer... elle s'est créée comme un produit de marketing et elle se vendait très très bien. Et donc, pour avoir une villa de rêve, toute peinte en rose, avec sa piscine en forme de cœur, ses petits chiens, ses fans, etc., eh ben, elle devait se produire partout. Et elle a créé les premiers lap dance, se produisait, se striptisait un petit peu partout. Elle pouvait même faire une inauguration de boucherie, par exemple, mais toujours moyennant des finances énormes, ce qui lui permettait donc de nourrir toute sa famille. Alors malheureusement pour elle, elle avait aussi donc tous ses compagnons étaient, elle était à coquiner avec des mauvais garçons qui la tapaient, voire des gourous satanistes, ce qui n'arrangeait pas les choses. Mais elle arrivait, elle, à s'en sortir financièrement, tout au moins.
Bah voilà, bel exemple, merci. Donc c'est publié chez qui?
Chez Flammarion.
Je ne sais
pas. Non, bon, chez Grasset.
Je pose une question dont je ne connais pas la réponse pour une fois.
Gelman Street, 1967, chez Grasset.
Très bien, merci. Puisqu'on parle de...
Oui, les temps ont changé, oui. Parce que les gens qui font maintenant les foires au Boudin ne sont pas forcément des stars.
C'est ce que je voulais dire. Daniel Gilbert ou Leclerc.
Bah, c'est une ancienne star.
C'était mieux avant, c'est un parcours différent. Avant, c'était star pour devenir bimbo, mais créer soi-même, avec volonté. Maintenant, c'est plutôt le contraire.
Alors, puisqu'on parle de bimbo, on va parler de quelqu'un. En fait, elle est morte le 29 juin 67, et il y a quelqu'un qui est né le 29 juin 21. C'est dingue, quand même. C'est qui est né le 29 juin 21?
Oh là là, il me prend de court, mais c'est Frédéric Darc, bien sûr.
Et donc, puisqu'on parle de bimbo, on va parler de San Antonio.
Et
après
oui,
le foot,
oui, oui.
San Antonio,
écoutez,
bravo, ben Vincent, voilà, mais oui, je te félicite.
Alors, bon, San Antonio, je l'ai lu adolescent, prépubère, et effectivement, pour partager avec Sana quelques émotions turgescentes. mais bon, voilà, ça fait très longtemps et que j'avais remisé ça dans les secrets de ma mémoire. Et ma belle-mère préférée, Malou, si tu m'entends, respect, m'a offert Baseball à la balle pour mon Noël l'année dernière.
Je vous raconte pas sa tête à ce moment-là. Hein.
Et elle m'a dit qu'elle l'avait lu.
Encore plus étonnant. Et
j'en doute. Sincèrement, j'en doute parce que San Antonio, c'est très fleuri.
Oui.
C'est très explicite. C'est ça qui m'avait sans doute plu quand j'étais plus jeune. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu too much. Bon, c'est une plume qui est comme une mitraillette. Hein. Il enchaîne les citations, les pléonasmes, s'enchaînent les uns aux autres à devenir des canevas de jeux de mots un peu indigestes. Mais c'est à l'image de sa production, San Antonio, enfin Frédéric Darc. C'est 200 millions de volumes vendus. Ça doit être un des écrivains à succès planétaire qu'on a peu en France. Il produisait jusqu'à 3 livres par an. Donc, des San Antonio, vous en avez peut-être lu un, mais vous n'avez pas fini parce qu'il y en a 175 et manque de bol. Parce que finalement, il y en a qui ont des mauvaises idées. Et ben, son fils a essayé de reprendre le flambeau et ça l'a sans doute moins fait.
Les nouveaux
San Antonio, c'était mieux avant. Alors, Baseball à la balle, c'est un excellent cru. On retrouve dans le titre. Ce qui fait aussi la marque de Frédéric Darc, hein, c'est
la finesse.
C'est assez grotesque, mais c'est surtout ça claque, ça clash, et on retient tout de suite ce truc, quoi. Et la prochaine fois que vous allez à la balle, vous demandez tout de suite, mais il est où le losange de baseball, quoi. Enfin, bon, bref, une enquête comme d'habitude. Le prince Charles s'est fait enlever. Il enquête. Bon, on se dit, mais où est Berrurier? Où est Berrurier? Et il arrive. Voilà, il arrive avec ses flatulences qui le précèdent. Et bien sûr, il se tape plein de gonzesses au passage. Il arrive à sortir d'affaires. Le grand Charles, et tout est bien qui finit bien. Donc un très bon volume, un excellent cru. Voilà, après il faut Frédéric Darc, c'est assez indigeste, hein. Mais de temps en temps,
j'ai de bonnes citations de Frédéric Darc.
Ah, mais les bonnes citations de Frédéric Darc, oui, mais voyez, une citation, c'est pas un roman de 250 pages. Et donc un recueil de bons mots de Frédéric Darc fait un roman agréable, mais à lire, on va dire
modérément.
Voilà, une fois tous les 5 ans.
Très bien, donc pour ton anniversaire dans 5 ans, tu sais ce qui t'attend. Un nouveau, le nouveau San Antonio peut-être. C'est encore publié chez
Alors,
quelqu'un ou pas?
C'est chez Fleuve Noir. C'était depuis le début, puisque San Antonio est intimement lié à Fleuve Noir, parce que c'est le premier auteur de l'écurie de Fleuve Noir. Il a même épousé la fille de Caro, qui est le créateur de Fleuve Noir. Donc oui, c'est toujours dans cette belle maison.
Merci. On va passer à quelque chose de plus sérieux avec Mélanie.
Je redeviens sinistre. Non, je voulais pas vous décevoir.
Même pas, je suis pas sûr. Un petit grand papier d'Olivier Rollin, c'est sinistre?
Petit grand papier, non. Sinistre n'est pas le mot. Mélancolique et un peu plein de désillusions, en tout cas, oui. Donc, petit grand papier C'est un livre qui parle de l'extrême gauche, hein, de l'histoire de l'extrême gauche. Ah. Oui. Précise. Non, tu as quelque chose à dire. Qui est alors donc fortement autobiographique, même si ce n'est pas complètement vrai, mais voilà, qui est quand même inspiré par le parcours d'Olivier Rollin. Et qui est donc, alors, le côté original, c'est que c'est pas un récit qui se passe dans les années 60-70, mais un narrateur qui aujourd'hui va raconter ses années de lutte auprès donc de son groupe d'action à la fille d'un de ses personnages, donc personnage qui est décédé depuis, et voilà, un peu une espèce de transmission, de essayer d'expliquer ce que c'était que ces mouvements d'extrême gauche à la fin des années 60 et dans les années 70.
Il le fait dans une voiture,
une déesse forcément, qui s'appelle Remember. Non, j'ai deux fois Remember. Et en fait, alors effectivement, ça donne aussi une vision très nostalgique. Alors il va tourner en fait autour du périphérique parisien pendant toute une nuit pour raconter à cette jeune fille qu'il raccompagne chez elle. Alors, ça devait durer 10 minutes et puis en fait ça dure 6 heures. Et il va en profiter pour lui raconter donc tout ce qui s'est passé dans ces années-là.
Et donc il parle de la gauche prolétarienne.
C'est ça, et de ces luttes, de pourquoi ils en sont arrivés là. Non, je sais pas, c'est pas l'expression, mais quelles étaient les motivations. Et puis aussi le fait que ce soit un regard rétrospectif comme ça, ça conduit à parler du bilan qui est pas forcément glorieux, des désillusions, de ce que tous ces gens sont devenus aujourd'hui. Et alors il y a deux solutions, soit ils sont morts parce que la drogue, parce que l'alcool, en raison justement des désillusions, soit ils sont devenus des gauches caviar qui racontent leurs exploits d'antan, mais voilà, sans plus aucun engagement politique, des espèces de, il les décrit comme des natures mortes en fait, voilà, qui sont tous devenus journalistes, kinésithérapeutes, et qui parlent maintenant de leur hernie discale ou du fait qu'il faut arrêter de fumer parce que c'est pas bien.
Lui, il est à fond dans « c'était mieux avant ».
Oui et non, parce que c'est pas du tout une vision utopiste de ce qui s'est passé. Il y a un regard très critique aussi, mais il est plus dans une sorte de nihilisme en fait, à se dire on a fait toutes ces choses là, mais quand on réfléchit, est-ce qu'on était bien conscient de pourquoi on le faisait, de comment on le faisait, parce qu'alors il raconte des actions, on a l'impression que c'est les pieds nickelés. Des fois, ils savent pas trop bien pourquoi ils font ça, ou ils font. Alors, ça donne des scènes assez cocasses où faut acheter des mâles pour mettre des PDG, des méchants PDG. Et puis en fait, après, ils se rendent compte que le méchant PDG c'était un grand résistant et qu'ils ont cassé la gueule un mec qui était un héros de la guerre en fait, qui était plutôt justement quelqu'un de dans la lutte aussi. Et dire on est en fait les enfants d'une génération donc d'avant de la Seconde Guerre mondiale où on a voulu reprendre un héritage, mais peut-être de façon pas forcément toujours consciente, voilà, pas trop savoir comment agir en fait, comment lutter, et c'est assez amer en fait comme constat, tout en rendant quand même hommage voilà à ces gens qui étaient à fond dans leur lutte, qui ont sacrifié souvent plein de choses. Alors notamment il parle des relations amoureuses qui étaient impossibles parce qu'on peut pas être amoureux quand on lutte pour la cause, donc
c'est
voilà.
Une ouvrière.
Non. Oui. On a dit qu'on citait pas de nom.
Ah ouais. Non, c'est pas ça. Mais donc de la gauche prolétarienne, moi j'ai relevé des noms, parce qu'Olivier Rollin, pour le coup, était vraiment un acteur de la gauche prolétarienne,
oui, c'est
pas, il n'invente pas, là,
non,
il,
non,
il, a, il a vraiment vécu, il y avait Benny Lévy, il y avait Alain Gesmard, Serge Julie, donc
oui.
Un de ceux qui a réussi, on va dire, Gérard Miller,
si on veut, oui, Gérard Miller,
Martin Karmitz,
oui. André Karmitz,
André Glucksmann,
oui.
Et puis Daniel Rondeau aussi.
Complètement, alors ce sont des gens, en fait, c'est un roman à clé aussi, c'est-à-dire qu'il ne les cite pas, mais... On reconnaît voilà au portrait, à leur parcours après qu'ils racontent, on se dit tiens lui ce serait bien telle ou telle personne, donc ce qui donne un côté à la fois voilà général au propos, mais où il y a des clins d'œil comme ça, et effectivement Serge Julie, enfin voilà, c'est des gens qu'on reconnaît dans les cocktails, voilà.
Très bien, merci. Alors c'est publié où?
C'est au Point, aux éditions du Point, et c'est vraiment extrêmement bien écrit, et cette idée en fait de voyage autour de Paris, ça renvoie aussi à un Paris d'antan où là aussi le c'était mieux avant peut fonctionner, et cette déesse voilà qui tourne autour des panneaux publicitaires Orange par exemple, qui est en couverture aussi du livre,
c'est dingue.
Et qui scande comme ça le trajet autour de Paris.
Alors, puisqu'on parle de DS, on va continuer dans la bagnole. Et on va parler de 4L avec Jimmy.
Bah ouais, de 4L, parce que c'était mieux avant, forcément. Parce que maintenant, tu vas voir ton garagiste. Tu lui dis bonjour, ça coûte déjà au moins 50 euros. Tu vois. Alors qu'avec une 4L, il suffit d'avoir une boîte à outils, quelques tournevis, et tout de suite, tu peux te dépanner tout seul, quoi. Alors que maintenant, juste pour changer une ampoule, voilà, quoi.
Donc,
et donc toi, tu nous chroniques là,
la revue technique la de revue la 4L. Ouais, enfin la revue, il y en a eu plusieurs, hein, parce que ça a duré un petit peu quand même comme production. Hein. Parce que les premières, la Deux Chevaux était sortie en 48. Hein, voilà. Et c'est le pendant de Renault à la Deux Chevaux, qui en a fait une un peu plus urbaine que la Deux Chevaux, qui était plus rurale. Tu sais, pour promener les œufs sans les casser, tout ça.
Il y avait des 4L décapotables d'ailleurs.
Oui. Décapotable. Il y a eu plein de sortes de 4L, mais il faut savoir aussi, surtout parce que ça équipait la gendarmerie et la police, que c'était la seule voiture de l'époque où tu pouvais rentrer avec ton képi sur la tête.
Ah oui.
Eh ouais.
Énorme.
Voilà. Et oui, il faut le savoir, hein, parce que bon, maintenant ils ont plus de képi. C'est un peu obsolète d'ailleurs, ils ont plus de 4L. Hein, vous avez vu.
Non. Et les Deux Chevaux pour les bonnes sœurs, c'était pour la cornette.
La cornette, peut-être, je sais pas. Ça, c'était pas en cahier des charges de la production.
Et alors, cette revue technique, tu t'en es servi, toi ?
Alors, celle-là, non, tu vois, elle est propre, il n'y a pas tache de cambouis, etc. Ouais. Voilà, quoi. Mais, ouais, je m'en sers, j'aurais pu amener celle de la moto, elle est un petit peu tachée, tout ça, elle est plus vivante, mais bon, c'est de la radio, ça se voit pas.
Mais hein, quand moi, j'ai regardé la revue technique, je me suis rappelé qu'il y avait des manivelles, j'avais oublié que les manivelles existaient à l'époque. Ouais. Et donc, sur les 4L, on faisait démarrer.
Sur les 4L, on pouvait, ouais. Alors, jusqu'à un certain modèle, après, maintenant, c'est fini, la plaque devant, tu peux plus le faire.
Mais pour les jeunes, la manivelle, c'était pour faire démarrer le moteur.
Merci de regarder.
À l'ancienne, ouais, voilà, ouais. Et donc voilà, donc la revue technique, ça ne sert pas que au garage. Moi, je m'en suis servi
pour faire une émission de chronique
aussi, mais je la lisais à mes neveux.
Parce comment
que, je la lisais à mes neveux parce qu'en fait, tu vois, tout le monde leur fait des petites histoires de nounours, de machin, etc. Moi, je leur lisais la revue technique et ça les calmait direct. Ouais. Ils m'ont regardé. Je sais pas si ils m'ont regardé. Genre, tonton, il est complètement frappé d'herbe.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus tes neveux?
Bon, ils font pas mal. Ça les a pas trop marqués. Ça m'amusait beaucoup, tu vois. Tu vois, retirer l'axe de la fourchette pour enlever la fourchette et le ressort. Glisser l'axe de la fourchette au molybdène BR2.
Fais-nous rêver.
Engager l'axe muni d'un caoutchouc d'étanchéité, placer la fourchette sur son ressort, faire coïncider les trous de la fourchette avec ceux de son axe. Placer les goupilles, respecter
c'est
la grille
bon,
de dépassement
bon,
par
bon,
rapport
bon,
à la fourchette.
C'est trop fort.
C'est bon, nous avons perdu nos élites.
Faut pas en donner trop.
Et donc, moi j'adore ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la 4L, il y a aussi un magazine qui existe. Je sais pas si c'est encore publié, hein, mais ça s'appelle 4L Magazine. C'est simple.
Et en couverture, t'as Saint-Étienne.
Énorme. Et voilà. En couverture, là, c'est un magazine de novembre 2007. Et c'était un spécial 4L Aller les Verts de 76, dont on a parlé à l'instant.
Bravo.
C'est pas beau, ça ?
Belle transition. Et on va finir cette émission, puisqu'il nous reste 2 minutes. Allez, 2 minutes avec Odile. 2 minutes, Odile, pour nous parler des hommes qui écrivent en prenant des noms féminins ou l'inverse, je ne sais
pas. Ou l'inverse, parce qu'avant, quand c'était mieux, les femmes, est-ce qu'elles pouvaient vraiment écrire sous leur nom de femme ? Ça ne se faisait pas.
Ça ne se vendait pas, en tout cas.
Mais non, c'est pas que ça ne se vendait pas. C'était pas bien pour la bonne société au 19e siècle d'écrire et d'être une femme. Donc, les femmes étaient obligées de prendre des noms d'emprunt. La plus connue chez nous, c'était George Sand. Il n'y avait pas que le nom, d'ailleurs. Elle prenait aussi les habits d'hommes, etc. Mais alors, donc, elles prenaient des noms d'hommes. Et puis, de temps en temps, quand elles étaient connues, on s'apercevait que, en fait, c'était des femmes. Ou alors, les femmes qui écrivaient, c'était des femmes qui étaient mariées ou qui avaient des liens de filiation avec des éditeurs ou déjà des écrivains. Donc, si vous allez sur le site des Poches sous les yeux, vous trouverez une chronique de Molly King qui s'appelle « Et la vague les emporta », qui justement parle d'une de ces auteurs anglais. Donc Molly King, quand elle a écrit « Et la vague les emporta », elle s'appelait M.G. Farrell, parce qu'il fallait un nom complètement asexué. Autrement, ça aurait été trop choquant pour la société irlandaise de l'époque.
Les éditeurs interdisaient, en fait, les obligeaient à
jouer. Voilà, ils étaient obligés, vraiment. Et surtout qu'en plus, elle parlait d'amour lesbienne, donc c'était absolument pas classe de dire « je suis une fille ». Elle venait de l'aristocratie, en plus, donc c'était important de changer de nom à ce moment-là. On peut dire aussi que tout ce qui était littérature érotique... il fallait aussi que ce soit des hommes qui écrivent la littérature érotique, parce que c'était pas imaginable qu'une femme puisse avoir des fantasmes, les écrire.
Quoi,
voilà. Donc là, maintenant, si vous avez un petit peu suivi l'actualité, ça a changé, puisque il y a 50 nuances de Grey, le livre le plus vendu, je pense.
C'est un homme qui l'a écrit.
De l'année. Et non, j'ai bien
vérifié.
Il s'est
planqué en femme parce que ça marche.
Et c'est une femme qui l'a écrit. Donc, les mentalités changent, c'était mieux avant, je ne sais pas. Si vous allez sur le site des Poches sous les yeux, vous pouvez tomber sur une chronique, lespochessousles.fr, est-ce que j'ai précisé ?
Oui, c'est bien.
Vous pouvez tomber sur une chronique de Yasmina Kadra, Yasmina Khadra, malgré son nom, n'est pas une femme, mais un homme. Un homme donc d'origine algérienne, qui était à l'origine militaire, et qui a décidé de prendre les deux prénoms de sa femme pour écrire. Parce qu'il trouve que les femmes en Algérie ont besoin de son soutien, sont courageuses. Enfin, au début, c'était pour ne pas montrer sa véritable identité. Et puis finalement, ça a été vraiment un acte d'engagement.
Oui, parce que les premiers écrits, il me semble que c'était au moment où ça s'est gorgé à tort et à travers en Algérie, non?
Oui. Et d'ailleurs, le fait que ce soit une femme qui ait écrit après a été très mal vu. Donc c'est pour ça qu'il a été obligé de dévoiler son identité et de dire que Yasmina Khadra était un homme. Yasmina Khadra était donc chroniquée par Daniel sur Des poches sous les yeux. Et puis,
Un dernier exemple,
c'est que maintenant, quand vous entrez dans une librairie, vous pouvez avoir un rayon chick lit. Qu'est-ce que c'est la chick lit? Chick, c'est la nana en anglais. C'est la littérature de nana. Vous avez toujours un rayon de chick lit. Et donc, généralement...
Tu ne trouveras pas Santonio dans cette...
Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a fait littérature masculine.
Ah non, alors ça parle... un petit peu de cul, un petit peu de shopping, et puis la difficulté d'être une maman et d'assurer son travail en même temps. Enfin bon.
Avec des couvertures flashy.
Avec des couvertures très flashy, mais c'est quand même une tendance qui montre que les choses changent. Et parce que si vous connaissiez pas la bitlit, on est mal parti. Parce que non, la chicklit, parce que maintenant il y a la bitlit. Et la bitlit, c'est, ça vous dit quelque chose ou
non,
pas?
Non.
Bit de l'anglais to bite en fait. Mordre. Donc il s'agit de toute cette littérature de vampires, de personnages surnaturels ou lycanthropes, donc les loups-garous, voilà, merci. Et alors donc maintenant la nouveauté, c'est que ce sont des femmes qui sont les héroïnes. Et bon, Stéphanie Meyer dans Twilight et compagnie est un exemple de vous avez retenu le nom?
Bitlit.
Et voilà. Merci.
Et toujours en couverture lavable pour pouvoir être lu en cuisine.
Voilà, c'est ça.
Oh, Jimmy. Il y a une dernière chronique, les chroniques de Lady Yoga, chroniquées par Sylvie sur le site despochessouslesyeux.fr. Initialement, c'était Ren Mitchell, une nana qui les avait écrites parce que c'est dans le rayon chiclet. Puisque en fait, ça parle de yoga, et en fait, c'est Stephen McCauley qui est un homme, et on lui avait dit, voilà, si vous voulez réussir maintenant, il faut changer de ton. Et Stephen McCauley est déjà chroniqué sur quel site?
Sur despochessouslesyeux.fr. Alors justement, pour terminer vraiment, despochessouslesyeux, on le retrouve tous les jours,
toute la semaine, à 8h-5, 1h-5, 6h-5, et puis dans des directs événementiels.
Merci. Merci à tous, merci aux chroniqueurs, merci à Violette.
Et on pourra avoir la dernière pause musicale.
Et on va avoir la dernière pause musicale maintenant.
Alors, et c'est quoi?
Bah, j'en sais rien.
C'est une chanson qui s'appelle
C'était mieux avant.
Encore.
Et de Daniel Darc cette fois-ci. C'est un peu plus dans le ton.
Ok, merci. Ciao.
Darc un jour, peut-être soir, s'aventure hors du trottoir. Pas le temps de regarder un éclair de réalité, lucidité. Darc se retrouve renversé, crade et lac, et le vice versa. Un poison qui le réanima. Et depuis comme Marvel, comme un mutant, crade et Darc, de temps en temps, Darc et crade à chaque instant. Et Fred, il a tourné chez ses parents. Et tu sais la blonde, Isabelle? Ouais. Ah, je crois qu'elle est devenue cinglée quelque part du côté de Bali. Et le mec le grand. Ah ouais, super. Et tu te rappelles ton mec? Ah, je vais pas m'en rappeler, mon avis, c'est... On s'en fout. Ouais, mais enfin, fais gaffe quand même. Regarde, il fait jour. J'aimais pas quand il faisait jour, il s'endormir avant. Ah, j'aimais pas ça, c'était flippant. C'était bien mieux avant. Elle dit ça lentement. Moi je sais que le temps n'attend personne pourtant. C'est vrai de temps en temps. J'ai dit si seulement. Elle se dit moi aussi. Parce que j'ai vieilli. Enfant du paradis. Du purgatoire aussi. maigre consolation. Personne ne sortira d'ici vivant. Ah, rappelle-toi. Allez, sois vivant. Pour ce qui est d'avant, elle n'a rien connu vraiment. Elle perd l'équilibre. Elle croit avoir des ailes. Ni comme Ika, ni comme Jet. Elle est juste prospecte sur les anges du paradis. Moi je suis un ange déçu, un prince en exil. Supportez-moi, c'est moi le bûcher des vanités. Je m'aventure à 10 mètres de chez moi. Je saute de la fenêtre du rez-de-chaussée. Je grimpe jusqu'au premier étage. Dark un jour, peut-être soir, s'aventure hors du trottoir. Dark se retrouve renversé. J'ai peur des noix de coco depuis Chris Richard. J'ai en enfer avec Richard Hell. C'était bien mieux avant. Elle dit ça lentement. Moi je sais que le temps n'attend personne pourtant. C'est vrai de temps en temps. J'aime tout si seulement. Elle se dit moi aussi. Je suppose que j'ai vieilli. Enfant du paradis. Du purgatoire aussi. Maigre consolation. Personne ne sortira d'ici